Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. C'est dire qu'avant, l'hôpital public en France était un Graal. Pour les médecins, les infirmières, les aides-soignants, intégrer un de ces services était un événement à célébrer. Une forme d'aboutissement. Quelle fierté, en effet, de faire partie d'un des systèmes de santé les plus plébiscités au monde. L'hôpital public était alors un trésor national, pour reprendre une expression, un rempart de la République. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, quand on parle de l'hôpital public, le lexique a changé et les termes qui reviennent sont désormais rigoureux. Rentabilité, tarification à l'activité, déshumanisation des soins en raison du manque de personnel et de matériel. Les dérives du système actuel ont fait de l'hôpital une entreprise comme les autres, mais qu'est-ce que la rentabilité quand on parle de soins? La fréquentation des urgences des hôpitaux français a augmenté de 93% de 96 à 2015, sans ressources humaines supplémentaires. Aujourd'hui, l'ensemble du personnel soignant est au bord de la rupture et les burn-out sont devenus monnaie courante. Ajoutez à cela des salaires peu élevés pour des infirmières et des aides-soignants qui ne comptent plus leur heure. Et vous comprendrez qu'il est désormais difficile de recruter et même de conserver le personnel soignant qui s'oriente vers le secteur privé. À l'heure où le rempart se fissure de partout, le collectif Interhôpitaux organise aujourd'hui à Paris une grande manifestation pour obtenir un plan d'urgence pour l'hôpital public. Un plan qui reprend les revendications d'une grève commencée il y a 7 mois pour sauver ce qu'il reste de notre trésor national et pourquoi pas refaire de l'hôpital public le Graal qu'il fut un temps.
Priorité santé sur RFI.
Et pour parler de cette crise majeure que traverse l'hôpital public, nous sommes avec 4 invités. Le professeur Philippe Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, chef de service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Beaujon. C'est à Clichy, en banlieue parisienne. Docteur Sophie Crozier, également parmi nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au service des urgences cérébro-vasculaires de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Hugo Huon, bonjour.
Bonjour.
Mais vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital universitaire Lariboisière Fernand Vidal à Paris et président du collectif Interurgence. Et enfin, le docteur Audrey Maillot, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes praticien hospitalier aux urgences SAMU du centre hospitalier Annecy-Genevois. Je crois qu'on
exact.
A une tablée complète pour représenter les difficultés de l'hôpital, professeur Lévy.
Absolument, je pense qu'on a...
Il manque les aides-soignants peut-être.
Oui, il manque les aides-soignants, les secrétaires, les assistantes sociales, les manipulateurs radio. Voilà, les hôpitaux, ce sont des petites villes dans lesquelles toutes les professions sont présentes et elles pourraient à bon droit être toutes représentées aujourd'hui.
Et aujourd'hui, tous souhaitent manifester. Professeur Philippe Lévy, alors je m'adresse là au doyen de ce studio. J'ai entendu certains de vos confrères dire que l'hôpital public, à l'époque, c'était le Graal. Vous avez eu ce sentiment également?
Alors d'abord, je précise que je ne suis pas doyen, je suis universitaire, mais pas doyen, je voudrais pas...
De cette table, j'ai dit.
Oui, bien sûr, c'était le Graal, mais à la fois pour les médecins, pour les personnels non médicaux et pour les malades, parce que c'était l'assurance d'être soigné, quel que soit son niveau social, par des médecins en principe up-to-date, c'est-à-dire parfaitement au courant de l'évolution de la médecine. C'était un Graal parce que c'est un endroit où on enseigne, on fait de la recherche, on réfléchit en permanence à la manière de donner le meilleur soin. Donc oui, c'était un Graal.
Docteur Audrey Maillot, vous, ce Graal, vous ne l'avez jamais connu, nous disiez-vous hors antenne tout à l'heure.
C'était une ambition quand on était interne, forcément. Et puis là, moi, ça fait juste 6 ans que je ne le suis plus, interne. Et les choses ont franchement bien évolué, puisque la nouvelle génération se pose énormément de questions. Enfin, moi, je peux parler que d'urgence, mais travailler dans le milieu hospitalier, on se pose la question très rapidement d'en sortir quand on voit les... qu'on travaille actuellement avec prise en charge des patients, mais on le fait de façon contraire à nos valeurs et pas du tout digne de la formation très exigeante qu'on a reçue.
Et on va y revenir évidemment tout au long de cette émission, car c'est évidemment fondamental. Docteur Sophie Crozier, déjà en juin 2015, il y a eu l'appel des médecins hospitaliers pour sortir l'hôpital de la crise. En juillet 2018, on avait fait une émission dans Priorité Santé, vous étiez venu à ce micro, suite à la tribune de 1000 médecins hospitaliers, avec cette tribune donc parue dans Libération, pour demander plus de moyens. Aujourd'hui, c'est un mouvement sans précédent qui regroupe tous les métiers, tous les statuts. Est-ce à dire qu'avant, vous n'avez jamais été entendu?
Ah oui, clairement, je pense que ça fait quand même des années, puis même avant 2015, hein, depuis au moins depuis 10 ans, puis vous disiez effectivement, vous citiez même des années encore antérieures. C'est clair que depuis 10 ans, en tout cas le mode de financement, notamment de l'hôpital, la réorganisation de l'hôpital, les projets de soins qui ont été faits dans les hôpitaux ne répondent aujourd'hui pas du tout aux besoins de santé de la population. Je veux dire, c'est ça qui est grave, hein, c'est que si aujourd'hui on se mobilise, c'est pour pouvoir prodiguer, comme disait ma collègue, les meilleurs soins aux patients. Or aujourd'hui, on n'a plus du tout les moyens de le faire. Ça fait des années qu'on alerte sur les difficultés de l'hôpital, sur le manque de personnel, sur des salaires qui sont hyper insuffisants. Et c'est quand même ça la principale revendication aujourd'hui. Et on n'est jamais entendu. Ça fait 8 mois que le collectif Interurgence, d'ailleurs je voulais juste rajouter que la journée d'aujourd'hui elle est organisée aussi et beaucoup à l'initiative quand même du collectif Interurgence qui est sur le terrain depuis 8 mois, et que sans eux on n'aurait jamais été capable, je pense, de se mobiliser comme on se mobilise aujourd'hui. C'est une mobilisation sans précédent. D'abord parce que effectivement c'est pas si souvent que les médecins viennent, mais le collectif interhôpitaux c'est pas uniquement des médecins, hein, c'est très important. C'était super important, je pense vraiment. Pour nous, la mobilisation, enfin la seule façon de pouvoir bouger les choses, c'est d'être ensemble, c'est-à-dire tous les professionnels de santé et avec les usagers. Il faut être donc c'est très important. Le collectif interhôpitaux il associe, même si c'est encore peut-être pas suffisant, mais on espère que ça va grossir dans les prochains mois, parce que ça m'étonnerait que ça s'arrête tout de suite. Il associe des usagers, des associations qui seront cet après-midi dans la rue. Parce que aujourd'hui, je pense que les patients, les usagers sont bien conscients que si l'hôpital public disparaît, si on donne pas les moyens à l'hôpital public, on ne pourra plus, ils ne pourront plus se faire soigner dans les hôpitaux, les maladies rares, etc., où vous voulez qu'ils aillent aujourd'hui. Ils sont pris en charge dans nos hôpitaux publics.
Mais finalement, la question n'est pas de savoir pourquoi vous défilez tous ensemble aujourd'hui, mais plutôt pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, professeur Lévy?
Mais c'est un peu ce que je vous disais aussi hors micro, c'est un peu la parabole de la grenouille dans l'eau chaude. C'est-à-dire que si on jette une grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle sort immédiatement. Si on la met dans l'eau froide et qu'on allume le gaz sous la casserole, le temps que l'eau chaude, elle s'en rend pas compte et elle meurt dans la casserole. C'est un peu ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que c'est une dégradation lente, permanente, depuis 10 à 15 ans. Et certains d'entre nous ont crié déjà de façon plus ou moins agressive ces dernières années sans jamais avoir été entendus. Il y a juste un projet que je voudrais dire qui illustre bien le problème. On va fusionner les hôpitaux à Paris, Beaujon et Bichat, dans un nouvel hôpital Nord. En faisant ça, on diminue le nombre de lits de 30% dans une des régions les plus précarisées, les plus populeuses. C'est complètement aberrant. On le dit depuis que ce projet est sur le papier, c'est complètement aberrant de continuer dans cette voie.
Alors, on parlait d'une manifestation qui regroupait l'ensemble des corps de la médecine, mais est-ce que vous avez vraiment le soutien de tout le monde, docteur Crozier, des directeurs d'hôpitaux, des personnels soignants? Est-ce que tout le monde ose dire ce qui se passe réellement dans les services?
Non.
Ou est-ce qu'il reste encore une forme d'omerta ou
Ah non, mais il y a une forme d'omerta. Je pense que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement compliqué pour certains de s'exprimer. Bon, il y en a qui ne veulent pas s'engager, et ça, c'est vraiment très regrettable. Bon, je suis navrée, mais je pense que
Perdre un poste ou pourquoi?
Je pense que, alors, les personnes, notamment nos directeurs d'hôpitaux, quand même, se sont assez peu manifestés. En tout cas, je les ai pas entendus, hein. Peut-être ça m'a échappé. Les cadres de santé sont totalement muselés. Ils ne peuvent pas aujourd'hui s'exprimer. Donc, c'est un vrai souci. Quant aux soignants qui s'expriment, ils subissent des représailles, on va dire. Enfin, ça reste compliqué aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Alors, si on n'a aucune ambition, ce qui est mon cas, je pense que ça pose pas tellement de difficultés de s'exprimer. Maintenant, pour ceux qui ont des carrières hospitalières, c'est difficile. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense aujourd'hui que ce qui me choque le plus dans tout ce qui s'est passé, vous le disiez, ça fait des années que, effectivement, les choses ne vont pas bien. On a du mal à le dire, on a du mal à s'exprimer, alors que le devoir moral, aujourd'hui, ça devrait être de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas et dénoncer l'inacceptable. Et aujourd'hui, on est plutôt encouragé à se taire, voire on fait taire les gens pour ne pas laisser la parole s'exprimer. Ça, c'est un vrai souci quand même. C'est très difficile de s'exprimer. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est très difficile.
Le sens de l'intérêt commun disparaît. Vous souhaitez rajouter un petit mot, docteur?
Je pense que ce qui devient de plus en plus difficile, Mario, vu les conditions actuelles, c'est de ne plus s'exprimer. En fait, Nous, sur Annecy, en tout cas, tous les corps de métier commencent à s'exprimer. On pouvait s'attendre à ce que le mouvement des urgentistes s'essouffle. C'est tout le contraire qui se produit, puisque c'est maintenant l'ensemble de l'hôpital, tout corps de métier confondu, qui est derrière nous,
Puisque la grève a commencé avec les urgentistes au début.
Ça a commencé, et puis probablement que plus haut, ils se sont dit, ils vont finir par se fatiguer, et c'est tout le contraire qui se produit. Au départ, nous, en tant que médecins, on s'est dit que pour que les paramédicaux se fassent entendre, il faut peut-être qu'on reste en retrait. Et puis je pense qu'ils l'ont fait avec la création du CIU, ils ont fait énormément de choses et je pense que maintenant c'est à nous d'enfoncer le clou. Et quand on voit que les médecins commencent à se positionner enfin parce que les prises en charge ne sont pas du tout en accord avec leurs valeurs, on se rend compte aussi que d'autres médecins, d'autres spécialités nous disent ce qu'ils subissent tous les jours ou ce qu'ils font subir malgré eux quoi finalement, le mal-être qu'ils ont. Je pense que ne plus s'exprimer, ça n'est plus possible. Et nous, à Annecy, on a eu la chance, enfin, les infirmiers du service m'ont demandé de les accompagner pour parler de nos soucis avec la direction. Il y a une écoute. On a eu cette chance-là d'avoir une écoute. Mais on se rend compte à un moment donné que même s'ils veulent mettre des moyens supplémentaires, créer des postes, ouvrir des postes, je pense que c'est pareil sur Paris. Il y a des postes qui sont budgétisés, qui sont ouverts. Mais il y a trouver des gens qui postulent pour le salaire qui est proposé, les conditions de travail, à un moment donné, les directeurs d'hôpitaux, même s'ils sont à l'écoute et qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ils ont les mains liées. Mmh. Il faut que ça vienne de plus haut et il faut que ça bouge maintenant.
Alors, les conditions de travail, justement, parlons-en. Hugo Huon, on ne vous a pas encore entendu, pourtant, vous aussi, vous souhaitez vous exprimer. Vous êtes donc infirmier aux urgences de l'hôpital universitaire Lariboisière, Fernand Vidal, à Paris. Concrètement, parlez-nous de vos conditions de travail. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain?
Alors ce que dénonce le collectif Interurgence depuis 8 mois maintenant, il y a deux volets. Il y a le volet accueil des patients, donc les conditions d'accueil, et les conditions de travail. Sur les conditions d'accueil pour le côté urgence, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que les personnes âgées restent trop longtemps sur des brancards, quand bien même ça augmente la morbimortalité, c'est-à-dire que ça augmente le risque de décès. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont attachées non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'on n'est pas assez nombreux pour les surveiller. Et les personnes les plus précaires, on leur donne un semi-accès aux soins, on leur refuse l'accès aux soins. Par exemple, vous avez une personne sans domicile fixe qui vient pour une pneumopathie, on va lui prescrire un traitement antibiotique et aller chercher à la pharmacie, on sait pertinemment que cette personne n'ira pas. Donc on fait des bouts de soins comme ça. Ça, c'est pour les conditions d'accueil et ça questionne la notion de vulnérabilité. En fait, l'idée, c'est de dire si à l'heure actuelle on réserve ce sort aux plus vulnérables, demain ce sera vous, demain ce sera moi. Mais aussi, c'est aussi parce que c'est une population qui a peu de risques de voice, c'est-à-dire de faire porter sa voix et de porter plainte. Et ça, c'est un des faits à l'hôpital. C'est-à-dire que quand vous avez 150 personnes qui viennent et qui viennent, vous n'avez une capacité d'accueil que de 100, il faut faire un choix. Et que ce soit mentalisé ou pas par les équipes, bien souvent, on se retrouve à reléguer les personnes qui sont déjà éclatées dans la société, déjà dissociées. Ça, c'est sur les conditions d'accueil. Sur les conditions de travail, ça questionne plein de concepts qui peut être l'accumulation de tâches, la charge mentale, la violence symbolique et la perte de sens au travail. Sur les idées de carrière, notamment, et du fait que les gens s'expriment peu, on le voit aussi avec les cadres. Alors, sur Paris, à la PHP, il y a 500 postes infirmiers vacants, ce qui entraîne la fermeture de plus de 900 lits. Avec des difficultés à recruter. Avant, on était dans une situation aux urgences où les CV étaient sur la table, ce qui faisait que les cadres, ça leur permettait de faire l'économie, de s'intéresser à la qualité de vie au travail. L'enjeu là-dedans, c'était de dire, si tu as envie de partir, c'est pas grave, demain je recrute quelqu'un d'autre. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. On ne peut plus recruter derrière. Mais sur les questions...
On va y revenir, évidemment.
Juste sur ces questions de carrière, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand vous dites à votre cadre, j'ai envie de partir parce que le travail m'épuise, la personne, elle vous dit juste, ok, vas-y. Et ça reflète aussi une chose, c'est la désespérance, même au niveau cadre, qui te dit, mais je n'ai aucun levier de toute façon pour te faire rester.
Professeur Lévy, vous vouliez réagir au propos d'Hugo Huon.
Oui, je voudrais juste replacer un peu pourquoi les médecins se sont réveillés un peu tardivement dans cette affaire. D'abord, pendant nos métiers à tous, ce sont des métiers où on prend soin de l'autre. Ce sont des métiers bienveillants. Donc pendant des années, on a pris sur nous. Les infirmiers ont pris sur eux, ont pris sur leur temps, sur leur vie de famille. Moi, je discute très souvent avec mon équipe infirmière. Je définis trois étapes. La première étape, c'est on ne peut plus faire notre métier correctement. C'était il y a une dizaine d'années, on n'a plus le temps de s'asseoir au lit du malade, de discuter, d'accompagner un patient en fin de vie. Ensuite, elles nous ont dit, je n'ai plus le temps de faire mon travail. C'est-à-dire, j'arrive à la fin de mon temps de travail, j'ai pas fait tout ce que je devais faire. Et aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui explique le réveil des médecins, c'est qu'on travaille hors sécurité. C'est-à-dire que là, il y a de plus en plus d'incidents, voire d'accidents dans les différents services, et c'est ça qui a été, je pense, un des déclics, en tout cas personnellement, qui a fait que le corps médical, qui est un corps socialement assez mou, plutôt centre droit et pas très revendicateur, s'est enfin réveillé.
Oui, docteur Crozier.
Ouais, moi je voudrais quand même ajouter que effectivement il faut quand même garder une image aussi pas trop négative de l'hôpital, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que il y a encore des choses qui fonctionnent et les raisons aussi pour lesquelles on se mobilise.
De nombreux pays nous l'envient, hein, ce système hospitalier.
Non, mais les raisons pour lesquelles on se mobilise, c'est parce qu'on est profondément attaché à ça. Et comme disait Philippe Lévy, oui, enfin je pense qu'il y a encore une volonté, il y a encore une motivation de la part des équipes de donner, de faire des heures supplémentaires, etc. Mais il y a un moment, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Alors, bien sûr, d'abord une reconnaissance salariale, mais il y a aussi des problèmes de management. Il y a plein de choses qu'on peut revoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste
très concrètement, juste pour nos auditeurs, par exemple, une infirmière, c'est ça, gagne environ 1500 euros par mois, oui, alors qu'elle est corvéable à merci, qu'elle fait des gardes de nuit, que quand une infirmière est en congé maternité, elle n'est pas remplacée. Donc, c'est sa camarade de travail qui effectue ses tâches. C'est tout ça le problème?
Oui, c'est tout ça. Oui, tout à fait. Oui, il y a surtout que, comme le disait Hugo Huon, on est dans des situations aujourd'hui où il y a un manque tel de personnel que, du coup, les personnels qui restent se retrouvent avec soit le double de patients à s'occuper, soit avec des horaires qui peuvent parfois, quand il n'y a pas de relève, moi je travaille dans une unité de soins intensifs, il est hors de question qu'on n'ait pas de personnel pour s'en occuper, donc quand il n'y a personne qui vient, eh ben, elles vont faire 16 heures. Donc c'est 16 heures d'affilée, donc elles arrivent le matin à 7 heures et elles vont repartir à 21 heures parce qu'il n'y aura pas eu la relève à 13 heures. Donc voilà, on peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et ensuite, il y a un autre souci quand même majeur, c'est que oui, il y a encore une qualité des soins à l'hôpital public. Maintenant, si on est en sous-effectif, ce qui se passe aujourd'hui, on a formé des gens, enfin, on est de plus en plus spécialisés, c'est une médecine technique et on se retrouve avec des prises en charge totalement dégradées. D'abord, effectivement, on retrouve plus du tout le sens de ce qu'on fait et surtout, on se retrouve avec du personnel, parce que ça a été le grand truc à réorganiser, à mutualiser, avec des gens qui connaissent pas les prises en charge. Moi, le service dont je m'occupe, prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. C'est des prises en charge qui sont hyper codifiées. Dans le monde, il y a des centaines de publications qui montrent que quand ils sont pris en charge par des soignants bien formés, c'est même pas les traitements de phase aiguë qui permettent de déboucher les artères, tout ça là. Indépendamment de ça, le fait qu'ils soient pris en charge par des infirmiers et des aides-soignants qui connaissent la prise en charge, qui s'en occupent bien, on réduit de 30% le risque de handicap et de mortalité. C'est énorme. C'est mondialement, je veux dire, ça se voit dans tous les hôpitaux dans le monde, ça a été démontré. Eh ben non, là on se retrouve, moi en ce moment j'ai la moitié quasiment de mon personnel l'après-midi en salle qui n'est pas du service. Alors, on veut mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a des gens qui connaissent rien du tout. Ils sont là, d'abord c'est très difficile pour eux parce que voilà, ils se retrouvent à faire des choses qu'ils ne connaissent pas et c'est hyper stressant. Et puis le deuxième point aussi, c'est que les problèmes de lit, là, d'aval des urgences. Ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a un grand concept aussi là autour du bed management. Il faut trouver un lit pour les malades comme si on travaillait dans un hôtel. Bon, c'est très bien. Alors, on va mettre des gens dans des services qui ne correspondent pas du tout à la prise en charge. Alors, évidemment, pour les patients, ça peut être dommageable, ce qui est dommage parce qu'il y a des unités, encore une fois, qui sont formées, qui sont motivées pour le faire, mais qui sont en sous-effectif. Et puis, pour les soignants, qui sont amenés à prendre en charge des patients dont ils ne connaissent rien. Moi, j'ai des patients qui sont en ophtalmo, en ORL, mais régulièrement, c'est tous les jours. Mais je vous assure, c'est vraiment, pour les équipes infirmières là-bas, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est hyper difficile. Ils connaissent pas la prise en charge, c'est très dur.
Oui, Hugo, on voulait rajouter un petit mot.
Oui, je reviens sur les conditions de travail, le turnover. Alors, toutes les études sociologiques exposent le fait que les professions soignantes soient les plus touchées par le risque de burn-out et compagnie. Dans ce cadre-là, moi, j'avais été voir la médecine du travail. Et mon propos, c'était de dire, mais à quoi sert une médecine du travail si les professions soignantes sont autant en souffrance? Et celle de mon établissement m'avait dit, mais en fait, moi, je ne vois que des gens qui vont bien, puisque les autres s'en vont, en fait, en général. Et si vous voulez, le turnover est fort. Et le premier message politique que j'ai à faire passer dans cette émission, c'est de dire on a réussi à mobiliser une population qui est le plus souvent résignée, sidérée, dans un contexte très mortifère d'économies successives depuis 10 ans. Si la réponse politique en regard de cette mobilisation-là n'est pas à la hauteur, en fait, le risque, c'est pas tellement ce que vous disiez d'une augmentation de mobilisation, c'est qu'il y a un effondrement complet du système, c'est-à-dire que les soignants se disent ça fait 9 mois qu'on se mobilise, notre employeur, l'État, ne veut pas revaloriser les conditions de travail, ne veut pas faire en sorte que les patients soient bien accueillis, pourquoi est-ce que moi je resterai à accomplir des missions de service public qui sont caduque de fait.
Docteur Audrey Maillot, donc vous êtes praticien hospitalier aux urgences d'Annecy, Genevois, donc en province. Est-ce que en province la situation est exactement la même? On lit dans la presse qu'une ville comme Mulhouse se retrouve sous la menace d'une fermeture de ses urgences, faute de médecins en nombre suffisant, que la maternité de Tourcoing, une autre petite ville, est contrainte de suspendre les accouchements faute d'obstétriciens. Est-ce que c'est un peu le même constat chez vous du côté d'Annecy?
Alors Annecy, c'est particulier parce que c'est la Provence, mais on est à proximité de Genève où un infirmier, quand il quitte notre service, nous on a eu 50%
de la Suisse,
ouais. 50% de départ des infirmiers l'année dernière. Et quand ils partent, déjà on leur dit « vous avez raison de partir ». Parce qu'on n'a rien à vous proposer, si ce n'est qu'on sait qu'à un moment donné vous allez craquer, partez avant de craquer.
Donc ils vont chercher un meilleur salaire en Suisse.
Ils vont chercher de meilleures conditions de travail, un salaire qui est multiplié par 2, voire 2,5. Pourquoi ils resteraient dans un, alors qu'on n'a rien à leur proposer et on compte simplement sur la flamme qui les anime. Parce que quand on arrive à l'hôpital public, c'est pas par hasard. Quand on arrive aux urgences, c'est pas par hasard. On travaille pas, on sait pourquoi on vient travailler là. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est partez, vous avez bien raison, et partez avant qu'il soit trop tard, parce qu'aux urgences, il y a un déficit de médecine de ville. Quand il n'y a pas de médecin en ville, les gens, ils nous appellent en régulation en disant, j'ai tout essayé, j'en ai appelé 10, j'ai appelé SOS médecin qui répond plus, qui est saturé, j'ai tenté 10 médecins qui peuvent pas me prendre avant la semaine prochaine, je sais que c'est pas une urgence, mais je sais pas où aller. Ben, venez aux urgences. Il n'y a pas de place dans les étages. Restez aux urgences. Et le personnel s'épuise. C'est déjà arrivé que dans des établissements comme Thonon, sur certaines nuits, il y a un médecin qui est et de ce mur et d'urgence, il est tout seul alors qu'il devrait être minimum 3. Donc quand il est en ce mur, il n'y a plus personne sur les urgences.
Est-ce que les urgences sont le service le plus concerné par ces manques d'effectifs, cette pénibilité du travail ?
Alors je pense qu'on l'est tous, au niveau des services, on l'est tous à différents niveaux. Moi je ne peux parler que de ce que je connais, mais quand je vois mes collègues qui commencent tout juste à s'exprimer, il y a un énorme malaise. Pour pas dire désespoir dans certains services, mais aux urgences, oui, on est le réceptacle de tout et on a des problèmes pas seulement techniques, on fait pas de l'urgence vitale avec du sang partout, on fait de l'humain, de la détresse humaine quand quelqu'un...
Bah pour un patient, l'urgence c'est lui-même finalement,
mais
que ce soit de la bobologie
être,
ou...
C'est, l'urgence ça peut être quand on a un patient qui arrive avec un AVC majeur qu'on sait qu'on ne pourra pas réanimer, on doit l'annoncer à ses proches, ses enfants, c'est un moment horrible à vivre, horrible à annoncer. C'est fort et pourtant il n'y a pas d'affolement autour avec des gens qui crient partout. Mais c'est très fort, très puissant. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Une femme qui va arriver parce qu'elle a reçu des coups de son conjoint, elle ose enfin demander de l'aide qu'on n'ait pas le temps à lui consacrer parce qu'on est appelé dans tous les sens. C'est inadmissible sur le plan humain, pas que technique, qu'on puisse pas faire notre travail de manière humaine. Et consacrer le temps qu'on devrait consacrer, ça n'est plus... Quand on sort de là, on est épuisé, mais parce qu'on est vidé en énergie, de se dire « mais j'aurais tellement aimé avoir plus de temps pour pouvoir le faire ». Alors effectivement, on compte pas nos heures encore. La garde de mardi soir, là, sur mon établissement, on n'a pas compté nos heures. Les chefs sont revenus à essayer de voir comment placer les gens, comment faire. Et le lendemain, on a eu des mails de l'équipe. On était tellement contents de voir qu'on était soudés, parce que justement, on touche un peu le fond. Et pour autant, c'est là qu'on voit qu'on est tous soudés, qu'on a tous envie de... Que personne ne craque et qu'on tienne tous ensemble, et ça c'est beau, mais il va falloir que ça bouge et que ça bouge maintenant.
Hugo Huon.
Oui, deux choses. Alors, je pense que la dégradation des soins, elle se fait à tous les niveaux. Il se trouve qu'aux urgences, on a des équipes qui sont souvent plus jeunes, plus nombreuses, plus soudées, et qui intéressent plus les journalistes. Ce qui veut dire qu'on a une fenêtre médiatique plus importante que les autres services dans la mobilisation et dans le militantisme. Je vais juste aborder une des réponses politiques sur la dégradation des conditions de travail. Quand on parle du déficit d'attractivité, notamment pour les paramédicaux au niveau des infirmiers, à une des réunions de négociation avec le ministère, la DGOS nous dit oui, mais avec Parcoursup, on va augmenter le vivier de personnes formées. Et c'est juste... On prend une seconde pour étudier le non-sens de ce truc-là. Donc, on fait l'économie de l'étude des conditions de travail en disant on va augmenter le nombre d'étudiants. Donc, c'est des formations de 3 ans cofinancées par l'État avec des personnes qui vont s'inscrire en premier choix en mathématiques, deuxième choix physique, troisième choix infirmier, qui vont arriver dans les IFSI, arriver au premier stage, ils vont se rendre compte de la réalité du terrain, ils vont se barrer. Et économiquement, ce modèle n'est pas viable. Enfin, on va dépenser de l'argent à former des gens qui ne vont pas rester de toute façon parce que les conditions de travail sont trop difficiles. Enfin, c'est dire la logique technocratique à l'œuvre qui n'est absolument pas adaptée à la réalité du terrain.
Professeur Lévy, vous voulez réagir ?
Oui, c'est les urgences, c'est un point nodal parce que c'est le point d'entrée dans l'hôpital de beaucoup de gens. C'est un point très médiatique, comme l'a dit Hugo. Mais c'est le problème dans tous les services. C'est le problème chez Sophie Crozier en urgence vasculaire. C'est le problème au scanner où on ferme des scanners parce qu'il n'y a plus de manip radio. Donc quand on
Alors ça, c'est ce que vous avez raconté. C'est la petite anecdote, mais qui est très révélatrice. Vous avez eu un deuxième scanner, c'est ça ?
Oui.
Les personnes pourront l'utiliser dans votre service.
Absolument. Les manipulateurs radio sont partis en privé parce qu'il y a eu plein d'autorisations d'ouverture de scanners privés où ils sont mieux payés. Ils ont des plannings stables. Donc quand on a un cancer aujourd'hui, on attend 15 jours, un mois de plus pour avoir un scanner. Ensuite, on attend 15 jours, un mois de plus pour être opéré. Donc c'est partout pareil. Et l'agressivité qu'on ressent tous aux urgences, mais y compris dans les services, comme vous l'avez dit à l'instant, est tournée vers nous parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas être traités de façon optimale. Quand on dit à quelqu'un qui a un cancer du pancréas, vous aurez un scanner dans un mois, ça n'est pas possible.
C'est compliqué parce qu'en plus, leur colère, elle est tellement justifiée. C'est-à-dire qu'on a des gens en colère et quand ils nous disent mais c'est inadmissible ce qui se passe, mais je vais en référer à la direction. Et on leur dit, mais faites-le, s'il vous plaît. Puisque si nous, on ne nous écoute pas, j'espère que vous, on vous écoutera. Et donc, ils sont un peu déboussolés, mais ils disent, parce que vous êtes avec nous. Je fais, mais évidemment, évidemment.
Alors, parmi les nombreuses revendications, il y a l'arrêt de la fermeture des lits. On peut peut-être rappeler que plus de 900 lits sur 20 000 sont fermés dans les 39 établissements franciliens de la PHP, hein, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Comment on l'explique, ça, concrètement, docteur Crozier? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et combien de lits supplémentaires a-t-on besoin?
Voilà. Alors, je les chiffrais, moi, j'en serais bien incapable.
Non, mais par exemple, dans votre service.
Comment on l'explique, la fermeture des lits? C'est tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'on n'a plus de personnel. On paye pas les gens. Ils peuvent pas venir, ils ont plus envie de venir travailler ou ils s'en vont parce que les conditions de travail sont difficiles. Donc, voilà. En fait, on est arrivé au bout. Moi, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que quand on entend les témoignages qu'on vient d'entendre, y compris de nos collègues urgentistes, que ça soit les médecins, les infirmiers, qu'on voit la détresse dans laquelle on est, j'espère qu'il y aura quand même une prise de conscience de la gravité de la situation. Je pense que là, on n'a pas bien mesuré. Pendant des années, on l'a dit, vous le disiez, ça fait des moments, mais là, on est vraiment arrivé à un moment, j'espère, je serai pas là, sinon, que ça sera, on pourra faire qu'il y aura une marche arrière possible, qu'on pourra vraiment rétablir les choses. Mais on est arrivé à un point de rupture qui est absolument majeur, là. Sincèrement, moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'hôpital. Je n'ai jamais vécu ça. Et pour reprendre ce que vous disiez au début, oui, enfin, moi, j'étais hyper motivée aussi. J'ai fait partie de ces gens qui étaient vraiment, enfin, j'ai été fière de pouvoir intégrer les hôpitaux publics français, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Enfin, vraiment, enfin, c'était pas un rêve de petite fille, mais pas loin. Donc, là, aujourd'hui, je trouve que cette désespérance qu'on entend, notamment chez les plus jeunes, il faut qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on ait des mesures qui soient à la hauteur de ce qu'on vient d'entendre là. C'est dramatique. Enfin, moi, franchement, même quand je les entends, vous voyez, je connais la situation, ça continue à m'émouvoir. Enfin, je comprends pas que ça bouge pas.
Alors, ça fait réagir évidemment professeur Lévy, puis ensuite je vous donne la parole, Hugo.
Non, je voudrais juste citer André Grimaldi, qui a été beaucoup à l'origine de ce mouvement.
Bah, qui était venu il y a un an pour parler du même sujet avec le docteur Crozier.
Il a parlé à juste titre, pour renforcer ce que vient de dire Sophie Crozier, de dernier combat. Voilà, c'est le dernier combat pour l'hôpital public. Après, ça va s'effondrer. Voilà. S'il n'y a pas des mesures fortes, on va s'arrêter.
Hugo Huon.
Oui, juste sur la question des lits, pour développer un petit peu. Donc, en fait, la fermeture de lits, elle est due à des raisons comptables directes, c'est-à-dire qu'on va restructurer l'activité par pôle, on va regrouper les services, ou alors indirectes, c'est-à-dire que les conditions de travail sont telles qu'il y a une fuite de personnel et qu'on n'a plus les moyens de faire tourner les services. Ce que répond le gouvernement à cette fermeture de lits, c'est qu'ils disent, oui, on a fermé des lits d'hospitalisation complète, mais on a ouvert des lits d'hospitalisation ambulatoire. Donc, on fait tourner plusieurs patients sur un même lit dans une journée. Ce que nous, on répond à ça, c'est de dire, mais on ne s'adresse pas aux mêmes patients. Et avec le vieillissement de la population et la précarité grandissante, ces patients-là ne répondent pas aux critères de l'ambulatoire. Sur la question de combien de lits il faudrait, il y a deux axes de réponse sur lesquels on peut déjà aller. Le premier, c'est de dire qu'un service d'urgence a en moyenne un taux d'hospitalisation aux alentours de 15%. Donc, il faudrait qu'il y ait 15% de lits ouverts et disponibles tous les jours à l'hôpital. Et la deuxième chose, c'est sur la qualité des soins. Et il ne faut plus qu'on mette dehors des patients sous réserve parce qu'on a trois patients qui attendent pour le même lit. Et notamment pour des retours à domicile trop précoce de personnes qui finissent par revenir après aux urgences. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on est arrivé à un tel point d'économie que ça nous coûte maintenant de l'argent. C'est-à-dire qu'on est déficitaire, que ce soit dans la fermeture d'activité ou dans des non-sens sur des mauvaises prises en charge et des gens pour qui on doit recommencer encore et encore les mêmes soins.
Alors, on imagine que toute cette souffrance au travail dont vous avez parlé a des conséquences, évidemment, sur la qualité des soins. Mais est-ce que, très concrètement, vous avez des exemples à nous donner pour qu'on comprenne bien, docteur Audrey Maillot? Quelles répercussions pour le patient?
Bah, ça
moins
va être...
de temps pour parler, moins de temps.
Non, c'est pas seulement ça. C'est que quand on prend la journée, quand on arrive le matin et qu'on a une quinzaine de patients qui sont là aux urgences, quinzaine, vingtaine, ça dépend de chaque service. Mais quand on a des patients qui sont là depuis toute la nuit parce qu'on ne sait pas où les hospitaliser, qu'on a de nouveaux patients de la journée qui arrivent, notre flux habituel, que tout ça s'entasse, mais sauf qu'on n'est pas en service, on n'a pas de plateau repas pour ces gens-là, on n'a pas un effectif pour pouvoir, ils n'ont pas de chambre pour les toilettes, pour ce genre de choses, pour la surveillance de la prise des constantes. Honnêtement, quand les jeunes, quand je vois surtout mes jeunes collègues qui arrivent en garde et qui ont la boule au ventre en se disant, j'espère que personne va décéder ou qu'il n'y aura pas de grosses découvertes de catastrophes pendant mon tour de garde parce qu'on a tellement de patients à prendre en charge et la surveillance ne peut pas être assurée de manière optimale. On croise juste les doigts et c'est un stress phénoménal de se dire « je suis responsable de ce qui se passe dans mon service, mais je sais que ça me dépasse et j'espère juste que ça va aller pour cette fois encore, au moins encore pour cette garde ». Et ça, c'est juste inadmissible.
Professeur Lévy, parmi les autres revendications, l'augmentation de 300 euros net mensuel des salaires, est-ce que ça peut vraiment régler le problème, ça? Quand on connaît les problèmes rencontrés par les aides-soignants, les infirmières pour se loger, les problèmes de déplacement, le manque d'accès à des crèches...
Non, clairement, ça ne sera pas suffisant. C'est un prérequis indispensable, mais c'est tout ce qu'on a dit. C'est la qualité, c'est évidemment le salaire à la fin du mois, mais c'est la qualité de travail, c'est la possibilité de se loger, c'est pas mettre 2 heures pour venir à l'hôpital le matin et 2 heures pour en repartir le soir, c'est avoir des plannings stabilisés, c'est des avec la précarisation du métier, il y a ce qu'on appelle la grande équipe, donc les infirmières un jour travaillent le matin, un jour travaillent l'après-midi, ça peut être changé l'avant-veille, donc comment on organise sa vie de famille, c'est tout ça qu'il faut revoir.
Et même les médecins sont précaires, disiez-vous, les jeunes médecins.
Les jeunes médecins, oui, les jeunes médecins. Il y a des jeunes, ce qu'on appelle aujourd'hui les praticiens hospitaliers contractuels. Donc, leur poste est nécessaire, leur compétence est reconnue. Ils sont maintenus pendant des 3, 4, 5 ans dans une situation précaire où ils ne peuvent pas prendre un emprunt, pas prendre un loyer, évidemment pas fonder une vie de famille. Et on renouvelle leur contrat tous les 6 mois. Ils sont bac plus 12, 15. Ils ont responsabilité de vie humaine et on renouvelle leur contrat tous les 6 mois. Et ben, si la clinique du coin leur dit, écoutez, moi, je vous offre un emploi stable avec un salaire 3 fois ce que vous gagnez aujourd'hui et vous savez déjà quand est-ce que vous pourrez prendre vos congés, 1 an à l'avance, le choix est vite fait. Mmh. Et malgré l'attrait de l'hôpital, malgré la qualité de l'hôpital public qui est exceptionnelle, malgré la capacité de travailler en équipe, de faire de la recherche, etc., et ben, ils s'en vont. Ils s'en vont en pleurant. Moi, j'ai des infirmières pour prendre des infirmières qui ont quitté mon service, qui sont venues me voir dans mon bureau, qui m'ont dit, écoutez, j'adore votre service, mais je m'en vais. Voilà. Mmh. Et elles sont parties en pleurant.
Docteur Sophie Crozier, autre sujet, autre revendication, l'arrêt de la T2A, la tarification à l'activité. Pour faire simple et de façon pédagogique, expliquez-nous ce dont il s'agit et pourquoi vous demandez l'arrêt de la T2A.
Ça fait des années qu'on demande l'arrêt de la tarification à l'activité.
Depuis qu'elle a été créée en 2007, je crois.
Voilà, c'est ça. Depuis 2009, on pouvait anticiper effectivement que ça se passe pas très bien. Et la T2A, en fait, c'est le principe de rémunérer en fait l'hôpital en fonction d'un acte qui sont réalisés. Donc tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux depuis 10 ans, ça a été de réorganiser. Il y a eu des réorganisations qui ont été faites autour de cette tarification à l'activité, ce qui a en fait eu des conséquences majeures, à la fois parce que effectivement, comme disait Hugo Huon, on a supprimé des lits pour pouvoir rentabiliser, faire un maximum d'actes. Vous voyez, si on met plusieurs malades sur le même lit, ben on voit bien qu'on va faire plein d'actes, on va pouvoir donner une tarification à chaque fois qu'on multiplie. Donc on a encouragé les établissements à une espèce de course à l'activité totalement, qui n'avait aucun sens en termes de réponse aussi aux besoins de santé.
Et qui n'est pas le but de l'hôpital public.
Pas du tout. On a fermé des lits parce que comme ça, du coup, il y avait moins de personnel, on a réduit le personnel, augmenté l'activité, ce qui est quand même évidemment ce qui peut paraître assez rapidement, et c'est pour ça aussi qu'on voit aujourd'hui, c'est complètement contradictoire, on voit bien que ça entraîne un épuisement des professionnels. Et puis pour revenir à ce que disait aussi tout à l'heure Hugo sur la question des lits, il faut être conscient qu'effectivement on a besoin de 15% de lits d'ouverts, mais en même temps nous on a des injonctions paradoxales en permanence où on nous dit il faut 100% de remplissage des lits. Alors quand on n'a pas nos 100% de rempli, on vient nous dire ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'effectivement on dit, ah ben non, là il y a une perte pour l'hôpital puisqu'il y a du personnel qui travaillerait mais qui du coup ne s'occuperait pas de patients, donc du coup, enfin vous voyez, on marche complètement sur la tête, hein, mais il y en a des dizaines d'exemples comme ça d'injonctions paradoxales, donc c'est un vrai souci aujourd'hui ça dans l'hôpital. Donc cette tarification à l'activité elle a conduit à des réorganisations, c'est ça qui est le plus grave si vous voulez, des réorganisations hospitalières qui n'avaient pas de corrélation avec les vrais besoins de santé de la population, et encore une fois là on se bat pour donner des soins aux patients, et puis ça a conduit à une perte de sens pour l'ensemble des soignants. Quand je dis l'ensemble des soignants, c'est médecins compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme disait ma collègue aux urgences, nous, on n'a pas fait ce métier pour faire des actes. Enfin, je veux dire, la majorité d'entre nous, on considère qu'on fait un métier qui est humain. On veut pouvoir prendre le temps. On veut pouvoir avoir le temps d'accompagner des patients en fin de vie. C'est pas rentable. Enfin, vous voyez, on marche sur la tête. Il y a des fois, moi, j'ai eu un collègue une fois il y a des exemples comme ça qui m'a dit, qui était un de mes anciens internes, qui me dit qu'il y avait quelque chose qui avait fait irruption une fois dans sa pensée quand il a vu une dame qui arrivait, qui était plutôt en fin de vie. Et il s'est dit, et donc vraiment, c'était plus dans une prise en charge palliative, d'accompagnement d'une fin de vie, il s'est dit, ah bah, si jamais je lui mettais une ventilation non invasive, donc quelque chose, un aspect technique, ça serait rentable pour l'hôpital. Non, mais vous imaginez quand on a des trucs comme ça qui arrivent dans la tête quand même, c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi. Ça finit par conduire. Vous voyez, il y a une espèce de
ce qu'on appelle déshumanisation,
finalement. Oui, et puis ça pervertit le sens de nos missions. Donc c'est ce qu'on appelle un peu nous en neuropsycho, mais de la dissonance cognitive. Mais c'est qu'on finit par changer nos repères et nos valeurs pour pouvoir faire des choses qui sont inacceptables. Vous voyez, s'il y a des gens, par exemple, qui travaillent dans des abattoirs, il n'y a personne qui a envie de tuer des animaux. Personne ne veut faire ça. Mais au bout d'un moment, si on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas d'autre type de boulot, ben on finit par faire des choses qui sont insupportables, qui sont contre nos valeurs. Et bon, voilà, c'est très fort comme exemple, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses, on a honte. Enfin, moi, je rentre, quand je regarde un patient en face et que je sais que je pourrais pas lui dire oui, je serai là jusqu'au bout, je pourrais vous accompagner jusqu'au bout, parce que je sais que j'aurais peut-être pas de lit, j'aurais peut-être pas le temps de le faire, etc. Alors qu'avant, on pouvait les regarder droit dans les yeux et leur dire, mais je serai toujours là, je peux le faire, ça. Je peux avoir ce temps-là. Et ça, nous, voilà, on veut continuer à le faire encore une fois. Je veux pas qu'on dresse un tableau trop négatif parce que...
Non, mais d'exemple nous montre la déliquescence du système.
On veut garder ça. On est hyper motivés. Je pense que si on est tous là aujourd'hui, on croit que c'est encore possible. C'est pas on veut croire, on croit que c'est encore possible. Mais là, c'est urgent. Moi, j'ai pris une fois l'exemple de l'hémorragie. Mais je veux dire, on va pas passer des heures à chercher d'où vient l'hémorragie. Quand quelqu'un arrive en choc, en hémorragique, on fait une transfusion. Donc là, aujourd'hui, on en est là. Ensuite, on va voir. Il y a des choses à réfléchir. Mais il y a un moment, il faut agir vite. Et là, je pense qu'on est arrivé vraiment au bout de ce qu'on pouvait accepter, vraiment.
Docteur Audrey Maillot.
Ouais, je rejoins ma collègue sur le fait que si on est tous là aujourd'hui, mobilisés, là ou en province, parce que je sais qu'ils se mobilisent aussi en dehors de Paris, c'est qu'on a envie de rester. On demande à exercer notre travail dans de bonnes conditions, mais on veut rester. Donc c'est ça le pire, on demande juste à travailler correctement. Et pour donner un exemple que m'avait donné un collègue oncologue, il me disait apparemment la direction lui disait qu'il n'y avait pas assez d'activité dans son service. L'activité sur le plan humain, c'est que mon collègue avait, et ses collègues dans son service, ils avaient des lits supplémentaires dans d'autres. Donc les patients qui relevaient de l'oncologie hébergés dans d'autres services, donc ils gèrent les patients dans leur service, qui sont physiquement là, puis qui sont dispatchés un peu partout dans l'hôpital. Et forcément, du coup, le délai de prise en charge de ces patients, quand on voit ces patients-là l'après-midi, qu'on va demander des examens complémentaires qui seront faits le lendemain, ça allonge un peu la durée d'hospitalisation. Et on va en plus venir leur reprocher que les gens restent un peu trop longtemps, qu'il y a du coup pas assez d'entrées et du coup, au vu des chiffres, pas assez d'activité, alors qu'en fait, ils courent partout. Et ça, c'est juste inadmissible. La question, là où les médecins aux urgences, en tout cas, ont commencé à se soulever, ça a été notamment lorsqu'il y a eu les annonces de Madame Buzyn, parce que lorsqu'on regarde...
De la ministre de la Santé.
De la ministre de la Santé, lorsqu'on regarde le rapport, quand on n'y connaît pas grand-chose, on se dit, mais il y a plein de belles idées là-dedans. Sauf que quand on est sur le terrain à 100% de notre temps, on se demande si le terrain, quelqu'un y a mis les pieds. Parce que quand on a l'impression qu'on réinvente le SAMU, on parle de choses qu'on l'on fait déjà dans notre activité. On veut essayer de récompenser les bons urgentistes qui n'acceptent pas les patients pas graves. Sauf que dans la réalité de terrain, les gens s'ils viennent aux urgences, c'est parce qu'ils ont cherché partout ailleurs et qu'on ne sait pas vers qui les réorienter. C'est pas l'inverse. C'est pas nous qui bénéficions d'un forfait et si on prend des patients légers, c'est cool, on va avoir de l'argent. C'est pas ça. C'est qu'on les prend. Déjà, quand on veut les réorienter, on aimerait bien, mais on sait pas vers qui. Et c'est pas humain de dire, je sais pas, mais débrouillez-vous parce que nous, on vous prendra pas. Donc, toutes ces mesures, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne demande pas plus l'avis à ceux qui sont sur le terrain et qui savent de quoi ils parlent avant de prendre des décisions qui ne sont pas du tout adaptées à la réalité.
Alors lui, il est vraiment sur le terrain. C'est Hugo Huon, infirmier. Vous voulez rajouter un petit mot ?
Oui. Alors sur la gestion politique, on pourrait en parler longtemps et notamment du comportement d'Agnès Buzyn qui est médecin, qui s'adresse à les médecins et qui pense que les médecins sont la solution. Or, ils sont peut-être une partie de la solution, mais ils sont définitivement une bonne partie du problème. Je voulais juste rebondir sur les phénomènes de déshumanisation. On a fait une étude, nous, il y a deux ans dans le service sur la compréhension globale des patients sortants. Et on a objectivé le fait que 40% des gens qui sortaient des urgences comprenaient mal le diagnostic, les thérapeutiques et la conduite à tenir.
Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu assez de temps de la part du médecin pour expliquer ?
Ouais, on pourrait voir le verre à moitié plein et se dire c'est quand même 60% qui comprennent. Mais qu'est-ce que ça traduit là-dedans ? En fait, ça traduit deux choses. La première, c'est que quand on est surchargé de travail, tous les verrous sautent, qui pourraient se paraître accessoires et on se concentre sur le cœur du médecin. Donc le soin, c'est la communication, et donc c'est ce qui a abouti à des situations d'agressivité parce qu'on n'a plus le temps de communiquer avec les familles et autres. Le deuxième élément, c'est de se dire en fait ce patient-là, je m'en fiche qu'il comprenne ou qu'il comprenne pas. Ce que moi je veux, c'est qu'il s'en aille. Et ça, c'est des phénomènes de dépersonnification qui sont liés au nombre en fait et aux chiffres. Et on se dit peut-être qu'il reviendra demain, mais demain c'est pas moi, puis demain c'est un autre jour. On verra bien à ce moment-là. Et ça, c'est quand même grave d'en arriver à des comportements comme ça qui sont juste liés à des phénomènes de pressurisation des agents au quotidien.
Professeur Lévy.
Oui, juste un petit mot sur la T2A et ce que disait Sophie Crozier, à savoir le taux d'occupation des lits. Ça, le taux d'occupation des lits, ça a été une mantra de nos directions. Et ils nous mettaient même en concurrence les uns contre les autres. Le service A, il est à 98%, formidable. Le service B, il est à 75%. Vous êtes un mauvais élève. Mais on ne peut pas avoir dans un hôpital public des lits occupés à 100%. Si ce soir, il y a 5 accidents vasculaires cérébraux au lieu de 1 en moyenne, je dis n'importe quoi, je ne connais pas les chiffres, il faut bien que Sophie Crozier puisse les accueillir. Donc elle est 4 lits vide, avec des infirmières disponibles. C'est toute cette souplesse qu'on a perdue. En clinique, en clinique privée, c'est facile de programmer un cancer du côlon, etc. À l'hôpital public où on est censé recueillir tout et n'importe quoi, il faut une certaine souplesse. Donc il faut un aval des urgences, il faut un certain nombre de lits disponibles, et ces lits, ils rapporteront pas la T2A, il y aura peut-être des infirmières qui seront là un jour avec un peu moins de travail, mais elles en auront plus demain, etc., etc. C'est cette souplesse qu'on a perdue.
Alors, cette mobilisation dépasse largement le cadre du personnel soignant, comme l'a illustré en octobre dernier l'appel de 108 célébrités adressé à Emmanuel Macron pour sauver l'hôpital. Parmi ses signataires, les comédiennes Florence Foresti et Charlotte Gainsbourg, le réalisateur Bertrand Tavernier ou encore le chanteur Lompal. Caroline Paré, elle s'est entretenue avec une autre personnalité qui s'engage pour l'hôpital public. C'est Denis Podalydès, acteur sociétaire de la Comédie Française.
Denis Podalydès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes acteur sociétaire de la Comédie Française, metteur en scène. Alors pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé pour signer cette lettre à Emmanuel Macron ?
C'est le principe du service public qui m'a guidé, et l'hôpital est au cœur du service public. J'ai été dans différents hôpitaux et à chaque fois j'ai constaté cette dégringolade, cet abandon de l'hôpital public, malgré la compétence justement, la bonne volonté, voire même l'excellence du personnel, des médecins, infirmières, aides-soignants, etc. Et que malgré tous leurs efforts, avaient le sentiment d'une décrépitude de l'hôpital public. Et c'est ça que j'ai fini par trouver insupportable. Le manque de lits, le fait qu'on doit quitter les chambres très vite, enfin tout ça, c'est probablement le lieu où le service public doit être gardé dans toute sa pureté. Il faut retrouver l'honneur du service public, c'est la grandeur d'une nation, c'est son service public. L'hôpital ne peut pas être une entreprise, l'hôpital ne peut pas faire de profit, c'est comme l'éducation, s'il y a un principe sacré, c'est bien celui-là. Il devrait y avoir une sanctuarisation de la notion même de service public. Ça n'est pas négociable, ça. L'hôpital, il est au cœur du lien social.
Et cette dégradation de la situation sur le terrain, dans la lettre, il est écrit qu'elle est devenue réellement intenable. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, par exemple, en famille ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle dans un milieu comme celui des comédiens ?
Bien sûr. En famille, évidemment, là, c'est souvent par la famille qu'on a parti lié à l'hôpital, pas forcément pour soi-même. Tout le monde va aller à l'hôpital, tout le monde va être un jour dépendant de l'hôpital, tout le monde va probablement finir ses jours aussi à l'hôpital. Enfin, c'est par excellence un lieu de vie et de mort, mais c'est un lieu déterminant dans la vision qu'on a d'une société. Je pense qu'en plus, si vous prenez une personne en particulier, je suis certain qu'elle est pour un hôpital public fort. Mais curieusement, pourquoi alors tout n'est pas fait dans ce sens ? Pour moi, c'est une énigme.
Une énigme face à une évidence, celle du bien public.
Du bien public, pour moi, c'est la notion capitale. D'ailleurs, sur lesquelles il n'y a même pas à réfléchir tant que ça. Le service public, l'État est là, et son fer de lance, c'est le service public. Et alors après, tout s'accroche à ça d'ailleurs, hein, la recherche, la science, même les arts. Les arts font partie aussi des services publics.
Merci beaucoup, Denis Podalydès, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne suite pour votre tournage.
Merci.
Merci, au revoir.
L'acteur Denis Podalydès, donc au micro de Caroline Paré. C'est important d'avoir le soutien de telles personnalités du monde de la culture, Hugo Huon.
Oui, alors de personnalité ou autre, enfin, pour faire le raccord entre ce que disait Sophie et ce que dit Monsieur Podalydès, c'est un combat qui est citoyen avant tout, et on interroge vraiment chacun sur la notion de service public et qu'est-ce que les gens veulent pour leur système de santé.
Le docteur Maillot disait justement que vous n'êtes pas assez soutenu finalement par le grand public que vous soignez. C'est dur à accepter ça, c'est dur à comprendre.
Je pense qu'ils comprennent au fur et à mesure, mais ils comprennent aussi qu'on est coincé, mais ils n'empêchent que eux, ils ont des revendications autres qui sont tout à fait légitimes quand ils viennent et qui sont pas bien. Moi, je vois que plus on communique avec eux, plus ils sont dans l'incompréhension de voir pourquoi on n'est pas soutenu, pourquoi on nous écoute pas. Donc, on a tous la même incompréhension, en fait.
On est très soutenus. Hein.
Vous pensez que si tous les citoyens étaient...
Moi, je pense que... Oui, ils le sont de plus en plus, ils sont de plus en plus sensibilisés.
Dizaines, des centaines de lettres de remerciements. Enfin là, moi, depuis qu'il y a cette mobilisation, alors c'est vrai qu'en plus, qui a été quand même un peu médiatisée, enfin la quasi-totalité...
Très médiatisée pour le coup, là, ouais, tous les médias en parlent ce matin.
Voilà, donc la quasi-totalité des patients, moi, que je vois en consultation, que je vois hospitalisés, où j'ai reçu des dizaines et des dizaines de mails d'encouragement. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Enfin, c'est le monde à l'envers. Moi, j'ai des patients qui sont dans des situations de détresse ou des conjoints ou de la famille qui m'écrivent des mails pour savoir comment ils peuvent nous aider. Donc non, on a un soutien très fort, franchement.
Qui augmente en tout cas. Plus la mobilisation avance et plus les gens sont à l'écoute et comprennent. Moi, je vois quand je m'excuse auprès des gens, je suis désolée du délai d'attente, ils nous regardent et puis on comprend.
Et dans le cadre du grand débat, c'est quand même ce qui est sorti. Il n'était pas au programme, l'hôpital public du grand débat. Et c'est le service public qui a été le plus plébiscité et soutenu par les Français, c'était l'hôpital public. Donc si, moi, je pense qu'on a un vrai soutien. Je ne suis pas du tout inquiète de ce point de vue-là. Par contre, la question de savoir comment est-ce qu'on se mobilise, c'est autre chose. Mais
avec le contexte social actuel, des gilets jaunes, aux pompiers, aux policiers, vous pensez que ça peut faire un grand mouvement social, Hugo Huon ?
Justement, je peux rebondir là-dessus. Donc, déjà, sur la question de l'opinion des citoyens, les sondages sont toujours en notre faveur depuis le début du mouvement. Ça n'a pas changé.
Encore après, heureux, j'ai envie de dire.
Il y a soutenir du bout des lèvres, il y a être présent, il y a aussi l'expérientiel et savoir que les services d'urgence, ça va pas bien, mais l'expérimenter quand on est malade, c'est différent. C'est donc, les personnes peuvent quand même être agressives. La question des usagers et la question des services publics, dans un contexte de désespérance politique, hein, tout le monde a l'impression d'avoir une impasse et que la situation se délite au fur et à mesure dans tous les secteurs, elle est importante pour nous à l'heure actuelle puisqu'on a demandé un arbitrage du Premier ministre. On se doute que le ministère de la Santé pèse peu face au ministère régalien, face à Bercy et aux logiques comptables. On se doute également que derrière la revalorisation des soignants, il y a la question en filigrane des profs et des policiers. En fait, est-ce qu'on revalorise tout le service public ou pas? Est-ce qu'il coûterait excessivement cher? Mais encore une fois, c'est une question qui doit se poser à chacun. C'est qu'est-ce qu'on veut pour les services publics à l'heure actuelle? Est-ce qu'on veut d'un système au rabais, mais dans ce cas-là, qu'on l'assume et qu'on vienne pas nous embêter? Et si vous voulez, le système, par exemple, en santé, qu'on pourrait se dire de médecine à deux vitesses, avec un système mutualiste. Éthiquement, j'y suis opposé, mais c'est avoir un tableau qui est juste partiel, parce que ce qu'il faut se dire, c'est s'il y avait des espèces de dispensaires pour les pauvres, qui viendrait travailler là-bas? Personne ne voudrait, la charge en soins serait trop importante.
Professeur Philippe Lévy, un petit mot de conclusion, justement. Vous pensez que si l'État vous garantissait certaines de vos revendications, ça les mettrait dans l'embarras avec les autres revendications des gilets jaunes, des policiers et de l'ensemble du service public, finalement?
C'est possible, mais comme le dit Hugo, il faut savoir à quel niveau on offre le service public. Le service public hospitalier, c'est pas que du soin, c'est aussi l'enseignement des futures infirmières, des futurs médecins, c'est la recherche, c'est tout ça. Donc, si on nous dit baisser le niveau, ok, on baissera le niveau, on s'organisera. Mais si, nous, on ne veut pas baisser le niveau. Et je voudrais dire, si j'ai encore deux secondes...
Mais vous avez deux secondes.
Les trois invariants que j'ai retenus du grand débat qui a eu lieu dans différents endroits, c'est un, donnez-nous du temps, voilà, du temps pour s'occuper des gens, donnez-nous de la reconnaissance et de la confiance. Voilà. C'est les maîtres mots, et pour l'instant, en tout cas après le grand débat, ils n'ont pas du tout été entendus. J'espère que ce mouvement aboutira à ce qu'on soit entendu.
Il faut du temps, effectivement, pour être auprès des patients. Un dernier mot de conclusion, c'est pour vous, docteur Maillot.
Je pense tout juste que notre mouvement n'est pas une priorité pour le gouvernement, il va clairement devoir en assumer les conséquences, puisqu'elles arrivent, maintenant, que ce soit pour les soignants, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. Les conséquences seront gravissimes si on n'est pas entendu.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous êtes en grève, mais que vous travaillez quand même.
Mais moi, ça n'a rien changé à mon activité. Je continue à enchaîner. J'ai dû faire 36 heures là en 3 jours. Je suis toujours là. Notre activité n'a pas changé. Et si les gens attendent, c'est pas parce qu'on est en grève, c'est parce qu'on est en grève justement parce qu'ils attendent trop.
Merci infiniment. Merci à tous les quatre d'être passés dans ce studio. Merci aussi à toute l'équipe de Priorité Santé qui fabrique chaque jour cette émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Mostefa Mostefaoui. Demain, vous retrouverez Caroline Paré derrière ce micro pour une émission autour de la musique pop et des troubles psychiques. Tout un programme. Et si vous souhaitez témoigner ou poser une question, eh bien, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.